Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Son ciel est tapissé d'étoiles. En 2002, Guy Savoy est entré dans la légende des chefs 3 étoiles. Et depuis 4 années consécutives, son restaurant au sein de l'hôtel de la Monnaie, Quai Conti, à Paris, est désigné comme meilleur restaurant du monde. Dans le classement indépendant établi par le site très redouté La Liste. Alors autant dire que lorsque Guy Savoy publie un livre de recettes, eh bien c'est comme un cadeau qu'il nous fait. Et justement, Guy Savoy fait paraître chez Hercher, coécrit avec son sous-chef Alexis Voisenet, un livre riche de 25 recettes de soupes d'été, froides, chaudes, glacées, sucrées, qui vont vraiment nous ravir. Je suis ravie, moi aussi, de vous accueillir, cher Guy Savoy.
Ben bonjour, merci. Merci de m'accueillir aussi chaleureusement. Merci.
Alors Guy Savoy, votre restaurant à la Monnaie de Paris a été élu en 2020, donc pour la 4e fois consécutive, je le disais, meilleur restaurant du monde. Et depuis 2002, vous avez 3 étoiles au Michelin. Durer dans un monde où tout est mouvant, c'est la plus grande gageure. Mais durer en ne visant que la perfection, avec une réputation planétaire remise en jeu à chaque service, donc 2 fois par jour, c'est plus qu'une gageure. Le talent et la volonté suffisent ou il y a un autre secret ?
Non, il y a... Bon, je crois que c'est... Bon, j'aime pas trop parler de secret, parce que je crois que plein d'artisans vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Je crois qu'il y a d'abord du travail. Du travail, il y a de la constance, bien évidemment. Et on a la chance, nous, de faire un métier où on est en permanence dans le concret. Le concret des produits. Après, la magie de la transformation, ouais. Ça sous simplement à l'action du cuisinier. Et après, juste de l'autre côté de la cloison, des convives vont les déguster. Tout ça s'enchaîne, mais unité de temps, de lieu et d'action.
Dans la perfection, toujours, mais, depuis des décennies.
Ça fait très longtemps que j'ai réalisé que les vraies bonnes sensations, c'était dans la perfection qui est la conséquence d'efforts. Mais ces efforts ne sont plus des efforts, puisque la quête, cette quête à la fois de rigueur, de perfection et de constance, on l'a en permanence. Et si on veut être nous-mêmes avant les convives, nous-mêmes dans le bien-être ou même le mieux-être, oui, il faut qu'on ait cette impression du travail bien fait.
Non, très concrètement, Guy Savoy, qu'est-ce qui fait la différence entre 2 et 3 étoiles ?
Alors, bon, écoutez, c'est une excellente question. Je pense que le guide Michelin serait plus apte à vous répondre. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est un ressenti, quoi. C'est cette propension à faire fonctionner ou mettre en pratique cette sensibilité qui fait que, ben, il y a pas là. Voilà, il y a peut-être un peu plus d'émotion et je pense que ça se passe à ce niveau-là. Un jour, un convive m'a dit « Vous rendez l'éphémère inoubliable ».
Jolie formule.
N'est-ce pas le secret de la 3e étoile ? Voilà.
Et ben voilà, je prends comme réponse. Alors Guy Savoy, il s'est écoulé 17 ans entre votre 2e et votre 3e étoile. 17 ans donc pour passer de grand chef à légende vivante. Mais en fait, vous n'en êtes pas resté là puisque, je le répète, La Liste vous a donc classé meilleur restaurant du monde. Voilà. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on dort bien la nuit quand chaque jour on doit prouver qu'on est le meilleur chef du monde ?
Alors, c'est vrai que je ne suis pas un grand dormeur, mais ce n'est pas lié à un stress négatif, parce qu'il y a du stress positif. Non, je crois que de mon vocabulaire, il y a plusieurs mots que j'ai rayés déjà. J'ai pris conscience pendant ce confinement que le mot retraite ne me convenait pas, donc je l'ai rayé. Le mot pression aussi, en tout cas la pression négative. Il faut une pression, mais il faut une pression qui soit liée à la passion. Si cette pression, elle est isolée, ça ne sert à rien.
Alors Guy Savoy, pour enchanter justement nos papilles cet été, vous nous proposez un livre très futé, un livre joyeux et gourmand bien sûr, qui va ravir même ceux qui ne sont pas des chefs devant les fourneaux, tant il donne envie de choisir une recette et vraiment de faire plaisir à ceux qu'on aime. Alors, ce livre, il a pour titre « Soupe d'été ». C'est le volume 2 après « Soupe de printemps ». Il paraît chez Hercher, il est génialement illustré et votre propos, c'est de réhabiliter en fait un plat très sous-estimé, dont le nom sonne mal d'ailleurs quand on parle de la soupe, mais un plat qui offre un terrain de jeu infini, n'est-ce pas, les soupes ?
Absolument, on se souvient tous de l'injonction parentale « mange ta soupe », qui était plutôt un signe de punition, mais je dis grâce à l'imagination, au savoir-faire des cuisinières et des cuisiniers, on s'est aperçu que ce territoire immense, le territoire de la soupe, fait que maintenant, ce n'est plus punition, mais récréation. Et à travers ces deux ouvrages, et les deux autres arrivent au fil des saisons, c'est justement de montrer à travers ces 25 recettes que la cuisine peut être très facile, hein, à condition qu'on aille sur le marché. D'ailleurs, pour chaque saison, ce sont vraiment des produits qu'on trouve sur n'importe quel marché en France à la saison dite. Et que j'ai envie que ce livre donne des idées aux cuisinières et cuisiniers amateurs en disant, ben oui, après tout, lui, il a fait ça, mais moi, je peux peut-être faire ça avec d'autres produits et tout
Qu'ils osent se lancer.
Exactement.
Et imaginer.
Je veux que ce soit un livre d'ouverture, d'ouverture vers un territoire infini, le territoire des soupes, vous l'avez très bien dit, puis il y en a des froides, des glacées, bien sûr, c'est l'été, il y en a qui sont salées, il y en a qui sont sucrées, et tout se passe, tout se passe autour de deux ou trois ingrédients que l'on trouve très facilement. Et l'avantage de la soupe, le gros avantage de la soupe, qu'elle soit chaude, lorsque vous passez à table, elle est prête.
Et
celui ou celle qui l'a préparée peut s'installer en même temps que la famille. La soupe, elle est terminée lorsque vous passez à table.
Alors, dites-nous, depuis quand, en fait, les soupes sont-elles créatives? Comme par exemple votre velouté d'avocat au lait de coco, carpaccio de dorade au gingembre, que j'ai très très envie d'essayer. Mais depuis quand? Parce que longtemps, les soupes, ça n'a été que des consommés, des bouillons, des soupes de légumes.
Absolument, tout à fait. Alors, j'ai relancé la soupe en mettant ma carte déjà depuis au moins deux décennies. La soupe d'artichaut à la truffe, parmesan,
qui est votre plat signature.
Qui est servie avec une brioche feuilletée aux champignons, tartinée d'un beurre de truffe. Et on recommande aux convives de tremper la brioche dans la soupe parce que ça fait partie du plaisir. Je crois que la gourmandise s'éloigne du savoir-vivre, en fait. Je ne veux pas dire qu'il faut se goinfrer,
mais peur de proposer quelque chose de roboratif.
Voilà. Pas avoir peur de saucer, ne pas avoir peur de tremper cette brioche dans la soupe et tout ça. Et lorsque j'ai fait cette soupe d'artichaut, qui est devenue, comme vous dites, le plat signature de la maison, c'est de se dire, mais pourquoi pas en faire d'autres soupes qui ne font pas rentrer des ingrédients aussi coûteux que la truffe, et on s'aperçoit qu'on peut faire des soupes à différentes températures, encore une fois, et avec des produits très simples, et sans avoir besoin d'utiliser un grand nombre de produits.
J'ai remarqué que souvent, vos soupes, froides ou chaudes, sont versées sur un poisson, sur des coquillages ou crustacés, sur des légumes cuisinés, des dés de jambon, comme une espèce de... Ce n'est plus une soupe, mais une sauce magique.
Ça peut être un plat de résistance, absolument. Je me suis aussi attaché avec Alexis de faire une soupe qui peut être en entrée, des soupes qui peuvent être en entrée, et des soupes qui peuvent être même plats de résistance. Au printemps, il y avait une soupe de haddock et asperges blanches. Ça devenait un plat de poisson, en fait.
Alors, dans ce livre, Soupe d'été, Guy Savoy, vous nous confiez aussi vos recettes de soupe sucrée, comme la soupe de fruits rouges sur des cerises rôties au vinaigre. Ouais. Mais la soupe sucrée, qui a votre préférence, j'imagine qu'elle va se trouver dans le livre des soupes d'hiver, parce que vous faites une déclinaison. Ce livre Soupe d'été, c'est le numéro 2. Il y a eu d'abord les soupes de printemps. Mais cette soupe préférée, c'est la soupe de châtaigne au lait que vous préparez votre maman, n'est-ce pas ?
Absolument. Alors ça, on l'aura dans le prochain, dans l'automne.
C'est vrai, on l'aura dans les soupes d'automne.
On l'aura dans l'automne. Voilà, parce que oui, la châtaigne, le jour... lorsqu'au déjeuner, il y avait la soupe de châtaigne au lait, pour moi, c'était un enchantement. C'était l'apogée de la gourmandise.
On fait une pause très très courte et on retrouve tout de suite mon invité cet après-midi, Guy Savoy.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Je reçois un empereur. L'empereur de la gastronomie internationale, Guy Savoy, chef 3 étoiles, dont le restaurant à l'hôtel de la Monnaie de Paris, Quai Conti, a été désigné pour la 4e année consécutive meilleur restaurant du monde. Rien que ça. Guy Savoy. Alors, pour Marcel Proust, les délices de l'enfance sont tout entiers dans cette madeleine dodue que sa mère lui proposait avec un peu de thé. Pour vous, il ne s'agit pas de madeleine, mais de langues de chat confectionnées par votre maman, des langues de chat grâce auxquelles vous avez compris que la cuisine, en fait, c'était l'art de transformer en choix un produit comestible, c'est ça ?
Tout à fait. Je dis, la vraie définition, c'est l'art de transformer instantanément, j'insiste sur le mot instantanément, en joie, des produits chargés d'histoire. Parce que même si les produits sont très frais, l'histoire de leur race, de leur variété, de leur espèce Et l'histoire de chaque individu, la carotte, elle a sa propre histoire, au-delà de sa variété. Sa propre histoire, c'est-à-dire qu'il a fallu que dans le jardin, elle échappe au ver, elle échappe au rat, elle échappe à tout ça, donc elle a une histoire. Et nous, dès que ces produits sont chez nous, eh bien, tout ne dépend plus que de nous.
Oui.
Il
n'y
a plus rien d'autre que du bon doit arriver sur ces produits. Je dis d'ailleurs qu'on donne une deuxième vie à tous ces produits.
Alors, la magie de la transformation, vous l'avez comprise en voyant votre maman préparer donc des langues de chat.
Je l'ai vu mélanger du sel, ça m'a surpris pour un gâteau sucré, du sel, du sucre, de la farine, des œufs, du beurre, et tout mélanger, faire une pâte plutôt liquide avec une poche à douille, faire ses petits boudins sur sa plaque qu'elle avait préalablement beurrée. Après, elle a mis au four et puis elle m'avait chargé de surveiller. À l'époque, les fours n'avaient pas de vitres, donc j'ouvrais très impatient. Et je voyais qu'au fur et à mesure de la cuisson, ces petits boudins s'aplatissaient, prenaient une couleur très légèrement brune sur le tour. Ça commençait vraiment
à sentir
très bon dans la cuisine. À un moment, je lui dis, écoute, je me souviens d'avoir dit que c'était très bronzé. Donc voilà, elle les a sortis. En quelques minutes, sur la table, elle les a sortis de la plaque avec une petite raclette.
Et vous aviez 5 ans et votre vocation naissait.
Et là, j'ai dit, mais c'est magique, quoi.
Alors, votre maman, Léonie, a passé sa vie devant les fourneaux, car elle a fait d'une buvette donc à Bourgoin-Jallieu, un restaurant renommé, baptisé l'Esplanade. Ouais. Et il paraît qu'elle avait l'instinct pour que tout tombe absolument juste dans ses préparations, sans jamais mesurer ni peser quoi que ce soit.
Ni peser, non. Puis elle avait cet art, vous savez, elle faisait des gratins et des tartes magnifiques. Je crois qu'elle... Là, j'ai pris conscience avec elle qu'il fallait oser. Elle poussait la cuisson de ses gratins et de ses tartes à un point où certains seraient effrayés en pensant que c'est brûlé. Mais non, c'était juste ce petit liseré un peu brun foncé sur le tour des gratins. Mais c'était grâce à ce liseré un peu qu'on aurait pu penser cramé, entre guillemets, qu'on avait du plaisir en fait. Et elle osait aller jusqu'à là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque je vois une tarte très pâle, je n'ai pas envie d'y toucher. J'ai envie qu'elle soit caramélisée un peu sur les bords. Sur les bords, hein, j'ai envie qu'elle ait... de me rendre compte qu'elle a débordé un peu, quoi. Et c'est là qu'on a les sensations.
Ouais, la vision participe au bonheur de la gourmandise.
L'odeur aussi, bien sûr.
Alors, ce que je trouve absolument fou dans votre histoire, Guy Savoy, c'est que l'année de vos 15 ans, je dis bien 15 ans, vous avez remplacé au fourneau, pendant 2 mois, votre maman qui était hospitalisée. Donc, c'est un ado qui a tenu pendant 2 mois les cuisines de ce restaurant qui faisait combien de couverts par jour ?
Oh, ça dépendait des jours. Parce que comme c'était c'était une esplanade, alors ça allait de 40 à 100.
Mais attendez.
Mais avec une cuisine, avec une
restauration
simple.
Mais ça veut dire qu'à l'âge de 15 ans, 100 couverts par service, pendant 2 mois, vous avez remplacé votre mère. Oui. Mais vous étiez un enfant.
C'était
mais comment avez-vous organisé tout ça ?
Mais il faut voir, c'est beaucoup plus simple. Là, vous le racontez, on a l'impression que c'est merveilleux. Mais imaginez, ça faisait des années, ça faisait au moins 5-6 ans que je l'aidais. Et que pour moi, prendre cette succession, mais cette forme d'intérim, j'avais l'inconscience déjà, l'insouciance. Et puis ça a bien fonctionné, quoi.
Vous étiez combien en cuisine ?
J'avais ma tante qui m'aidait un peu.
Mais c'est vous qui dirigez.
Qui préparait, quoi. Voilà. Non, mais
vous aviez un sens miraculeux de l'organisation à 15 ans pour servir 100 clients.
Nous sommes des métiers, où la transmission se passe déjà par bien sûr les gestes, mais par le regard. Vous savez, lorsqu'un artisan travaille devant un apprenti, l'apprenti, à force de voir les gestes, il va au début être un peu gauche, surtout en cuisine. Si nos gestes sont pas parfaits, on se salit, on se brûle, on se coupe.
Ouais.
Mais on apprend très vite. Je vous promets que lorsque vous avez marre de vous salir, marre de vous brûler ou marre de vous couper, là vous avez les gestes justes. Et après
sauf que là il n'y avait plus l'autorité de la maman.
Et
vous étiez seul responsable.
Oui, mais bon, la liberté c'est bon, vous savez.
Pendant 2 mois, vous n'avez pas pu aller au lycée.
Oui. Si, non, mais c'était pendant les vacances scolaires en plus.
Ah bon ?
C'était juillet-août. C'est vrai que les vacances scolaires, je les ai passées au fourneau. Mais bon, c'était pas... Alors c'est vrai que j'ai eu des moments d'angoisse parce que, évidemment, on se dit, mais comment je vais faire ? Ou de doute, mais je crois qu'il faut avoir ce peu d'angoisse et beaucoup de doute. Aujourd'hui, c'est la même chose. Avant chaque service, je ne suis pas le plus zen des personnes.
Mais vous avez une telle expérience. Là, vous étiez un enfant. J'imagine, Guy Savoy, que tout de même, vous deviez être l'attraction de la région. tout le monde devait se donner le mot en disant il faut absolument déjeuner chez le petit qui tient un restaurant seul.
Les regards sur les ados à cette époque n'étaient pas aussi, comment vous dire, interrogatifs et tout. Donc, mais c'est quand même grâce à ça qu'un jour, le pâtissier célèbre de la ville, M. Louis Marchand, il vient et qui demande à mon père, mais qui fait la cuisine? Il savait que les problèmes de santé qu'avait ma mère. Et mon père lui dit, mais c'est Guy. Et là, c'est un pro, il se rend compte de tout ça, et il vient me voir après, et il me dit, mais tu veux toujours être cuisinier? Parce que bon, tout le monde le savait un peu. Je dis, ben oui, je veux toujours être cuisinier. Et là, il me dit, je vais au mariage de Françoise Bocuse dans une quinzaine de jours.
Oui.
Je te ramène la possibilité d'un apprentissage dans une grande maison. Et en fait, il a tenu parole. Il était assis à côté de Jean Troisgros. Et un an et demi après, je rentrais en apprentissage.
C'est extraordinaire. Chez les frères Troisgros. Quelle rampe de lancement.
Et puis, j'ai fait, avant 9 mois d'apprentissage, chez ce pâtissier, puisque les frères Troisgros à Roanne ne pouvaient pas me prendre tout de suite. Donc, j'ai fait un peu de pâtisserie et après, je suis rentré en apprentissage de cuisine.
Extraordinaire. Voilà. Mais alors, pour rester sur ce chapitre tout à fait étonnant de votre histoire, l'année de vos 15 ans, quand vous avez donc remplacé votre maman dans ce restaurant, vous aviez diminué le nombre de plats sur la carte ou même pas?
Non, mais c'était des plats simples. Non, mais j'étais
habitué. Que prépariez-vous?
Ça allait aussi bien. Bon, à côté du restaurant, il y avait un petit vivier où les convives pouvaient même pêcher leurs truites. Donc c'était de la truite meunière, c'était des omelettes, c'était des escargots, du coq au vin.
Tout de même.
Les glaces, les sorbets, mais tout ça, je faisais ça. Mais je turbinais les glaces en sortant de l'école déjà depuis l'âge de 8-9 ans. Donc non, tout ça n'était pas problématique.
On fait une pause très très courte et on retrouve tout de suite mon invité cet après-midi, Guy Savoy.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Et si les soupes d'été, glacées, tièdes, sucrées, étaient la récréation la plus gourmande qu'on puisse offrir à nos papilles? Guy Savoy, chef 3 étoiles, fait paraître chez Hercher un livre très futé avec 25 recettes magiques, carrément, de soupes d'été. Et il est mon invité. Alors Guy Savoy, avoir une vocation, quand on est adolescent, c'est une chance. Mais une vocation contrariée, ça peut briser une vie. Or, l'année de vos 16 ans, ben vous êtes passé vraiment tout près de l'empêchement. Quand vous avez annoncé au lycée que vous vouliez partir en apprentissage pour devenir cuisinier, on vous a carrément adressé à une psychologue, c'est ça?
Non, mais je crois...
On s'est inquiété.
Oui, non. Mais à l'époque, lorsque vous souhaitiez rentrer en apprentissage, vous deviez passer des tests psychologiques pour mesurer vos aptitudes. C'est vrai, moi, donc, j'étais en seconde A, donc seconde littéraire au lycée de Bourgoin. Déjà, le fait que je dise que je voulais être cuisinier, alors que j'étais le seul élève de la classe qui savait exactement ce qu'il voulait faire, bon, on me prenait pas pour le plus brillant des individus. Et donc, pour rentrer en apprentissage, il fallait passer des tests psychologiques, et pour bien formaliser ces tests, ils se passaient à la mairie, quoi. Donc, à l'hôtel de ville de Bourgoin.
C'était très officiel.
Je l'ai voyé, c'était très... Enfin voilà, très officiel, très... Comment vous dire? Oui, c'était ridicule d'ailleurs.
Voilà, administratif, là, très structuré.
Oui, voilà, très structuré. Et là, on me fait bouger des... C'est une dame qui me fait bouger des cubes pendant 10 minutes.
Non.
Et avec un... Je dirais... Les résultats étaient bizarres parce qu'elle me dit « Vous n'êtes pas fait pour un métier manuel, encore moins dans l'alimentation ».
Tout ça en vous faisant bouger des cubes pendant 10 minutes, c'est magnifique.
Ce à quoi j'ai répondu, écoutez, c'est pas en faisant bouger des cubes pendant 10 minutes que vous allez me faire changer une idée que j'ai en tête depuis des années. Et l'entretien s'est terminé comme ça.
Avez-vous dit à cette dame que vous aviez tenu seule pendant 2 mois les cuisines d'un restaurant l'année de 15 ans?
Ça servait à rien, je crois qu'elle... Bon, la pauvre dame, je suis convaincu qu'elle-même se demandait ce qu'elle faisait là. Donc, je crois qu'on est, voilà, on n'était pas fait pour s'entendre. Et puis l'épisode. Mais ça a eu quand même. Je vais vous raconter aussi cette anecdote parce que je suis donc rentré d'abord en apprentissage de pâtisserie chez le fameux Monsieur Louis Marchand, grâce à qui je suis rentré chez les frères
chocolatier Trois. Ouais, maître chocolatier de votre ville.
Bourgoin. Et vous savez, bon, c'est très fréquent dans les petites villes où on se promenait en vêtements professionnels.
Oui.
Et un jour, on m'avait tellement dit sur le fait que je choisisse ces métiers, que j'en avais fait une affaire tellement personnelle, un jour, ils m'ont dit, on va chercher des citrons à l'épicerie qui était à 200 mètres. Et là, j'ai pris le temps de me changer, c'est-à-dire de me remettre en civil, entre guillemets, pour ne pas apparaître dans la rue en tenue professionnelle de pâtissier. Tellement c'était devenu quelque chose de perso. Et j'ai dit, puisque vous n'êtes pas d'accord, ça ne regarde que moi. Donc, ça peut faire des ravages.
Mais pensez-vous, Guy Savoy, qu'en 2021, tout de même, on conseille, au niveau de l'orientation, d'une manière un peu plus fine, les ados, qu'à l'époque où vous aviez 16 ans en seconde?
Je ne sais pas si on les conseille, mais moi ce que j'aimerais, c'est qu'on ouvre les yeux de tous les élèves et étudiants sur les différents métiers possibles. Et il y en a certainement qui adhéreront parce qu'ils ne connaissent pas. Enfin, si on ne leur parle pas, si on ne parle que du cursus scolaire, donc intellectuel avec bac, fac et tout, ils ne peuvent pas avoir l'idée qu'il y a d'autres métiers qui existent, des métiers où ils seront immergés dans le concret. Mmh. Et on s'aperçoit bien, moi je le vois bien chez mes petits-enfants, bon, ils ont une envie de concret.
Alors, je continue de dérouler le fil de votre histoire. Après avoir donc eu cet apprentissage chez le maître chocolatier Louis Marchand, vous êtes entré en apprentissage chez les frères Troisgros, et c'est à cette époque-là, chez les frères Troisgros, que vous avez rencontré Bernard Loiseau, qui a tant compté pour vous, et j'ai presque envie de dire qui était ambitieux pour vous.
Qui était absolument... Il était de 2 ans mon aîné, donc lui terminait sa dernière année d'apprentissage. L'apprentissage durait 3 ans à cette époque. Et moi, je faisais ma première année. Donc on a été un an vraiment très très proche. Moi, j'étais très impressionné. Il arrivait au bout du cursus d'apprentissage, donc il savait tout faire. Il était parfait. En plus, il était assez, extraverti.
Ouais. Hein, ce qui un personnage. Resté
un personnage. Donc, à la fois très attachant et puis, qui nous faisait rêver, nous, les jeunes qui rentrions là, quoi. On avait tout juste 17 ans. Et c'était, lui, il en avait 19 ou 20. Et ça compte, les années à cet âge. Donc, il avait, une maturité professionnelle, une maturité physique, déjà. C'était un grand gaillard d'1m80, et je crois 80 kilos, je crois qu'il le disait, d'ailleurs, assez souvent. Et en plus, il savait tout faire dans la maison. Donc, il avait quelque chose...
Il croyait en vous.
Il connaissait même il reconnaissait les voitures des clients, parce que la cuisine donnait sur la cour, et c'est Bernard qui souvent disait « Monsieur un tel arrive » ou « Monsieur un tel arrive ». C'était... Non, mais c'est un personnage. Après, on est resté, bien sûr, très très proche. Je lui ai succédé à la barrière de Clichy.
Oui.
On a eu que des moments, de complicité extrême, quoi. On venait du même milieu social, très modeste.
Ce n'est pas l'objet de cette discussion, mais sa disparition reste un mystère, parce que cet homme était tellement... En fait, là où il passait, il générait une espèce d'euphorie. Il dégageait des ondes positives, il avait un talent immense, et personne n'a compris soudain pourquoi il s'est effacé.
C'est un drame terrible, hein, que moi, bien sûr, j'y pense très souvent parce qu'on s'appelait pratiquement tous les jours. Mais je crois que seule une maladie qui s'appelle la dépression peut expliquer ce geste. Parce que moi, j'ai encore dîné avec lui 15 jours avant et il trouvait les poutres de sa salle à manger trop petites. Ça ne lui convenait pas, c'était pas assez authentique. Donc
il pensait vraiment des projets.
Il pensait vraiment les changer. Donc
voilà.
Ça donnait. Qu'est-ce qui s'est passé ce 24 février 2003, je n'en sais rien, quoi. Je ne comprends toujours pas, à part une maladie pas décelée, parce que, en fait, son enthousiasme, on ne pouvait pas imaginer qu'un personnage tellement passionné, enthousiaste, puisse arriver à cet extrême. Bien sûr, l'hiver, mais moi, tous les hivers, je l'entendais un peu, enfin, pas déprimé, mais désolé. Il restait ouvert, ce qui était... Maintes fois, je dis que c'était une bêtise de rester ouvert l'hiver, parce que, sous lieu, l'hiver, il n'y avait pas trop de possibilités.
Il n'y a pas beaucoup de passages.
Il n'y a pas beaucoup de passages. Et là, non, mais vous savez, c'est que dans nos métiers, on a des gènes de bosseurs. Donc, de bosseurs et de mise à disposition. C'est-à-dire qu'on doit être là, quoi. Et il n'est pas arrivé à se détacher de ça, donc il n'a peut-être pas eu ces heures de récréation qui lui auraient... C'est un fou de travail, donc il a évidemment
manqué... Pour prendre soin de lui, simplement,
voilà,
simplement.
Il n'a pas pensé à lui.
Alors, je reviens à vous, Guy Savoy. La formation auprès des plus grands, eh bien, vous l'avez poursuivie chez Lasserre, à Paris, au Lion d'Or, sur les Hauts-de-Genève, à l'Oasis, à la Napoule, et puis à la barrière de Clichy, vous venez de nous le dire à l'instant, où était passé votre grand ami Bernard Loiseau. Et puis enfin, en 80, alors là, ça a été le grand saut. À 27 ans, vous vous mettez à votre compte, et puis vous ouvrez votre premier restaurant à Paris. Un an plus tard, vous décrochez la première étoile, 4 ans après la deuxième étoile, et depuis 2002, eh bien, vous êtes un chef 3 étoiles. Alors tout ça, ça semble toujours simple hein, avec le talent. Simple, mais tout de même, quelle histoire. Vous allez nous conter ça dans une poignée de secondes. À tout de suite avec Guy Savoy.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Cet homme est un empereur, au sourire gourmand et malicieux, chef 3 étoiles, dont le restaurant Quai Conti à Paris est officiellement désigné par le site indépendant La Liste comme le meilleur restaurant du monde. Et oui, je reçois Guy Savoy. Alors, Guy Savoy, c'est un fait. Il s'est passé plus de choses en cuisine ces 20 dernières années qu'au cours, bien sûr, des 2000 ans qui ont précédé. Et cela partout dans le monde, puisque des pays qui étaient, on peut dire, hermétiques à la gastronomie, comme par exemple la Norvège, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas ou l'Angleterre, se retrouvent avec des restaurants 3 étoiles, comme le Pérou ou comme le Brésil. Mais ma question c'est, y a-t-il encore de nouvelles saveurs à inventer ?
Bien sûr qu'il y a des nouvelles saveurs à inventer, mais c'est vrai que moi, l'intérêt grandissant pour les cuisines, j'ai dit bien autour de la planète, pas en France. En France, ça coule dans nos veines, la bonne cuisine. On a tous des mamans, des tantes ou des grands-mères qui nous ont fait découvrir la cuisine. Parce qu'on est le pays des produits, aussi bien dans la diversité que dans la qualité. On est le pays des savoir-faire aussi. On a une telle palette devant nous, dont le résultat est ce mot magique qu'est la gastronomie. Vous vous rendez compte, tous ces savoir-faire mis au service de la dégustation. Du vigneron, en passant par le fromager, en passant par le stricuteur, enfin oui. Tout, je ne vais pas faire tout l'inventaire qui fait qu'on est forcément les leaders.
Mais alors, en vous entendant nous dire ça, j'ai envie de vous demander si le courant vegan a un impact sur la gastronomie.
Alors c'est une voie, le courant vegan, hein, je ne sais pas comment il représente, je crois que c'est autour de 1%. Bon, bien sûr que ça interroge, ça... Moi ça ne m'a jamais posé de problème de faire des plats qu'avec des légumes. Mon premier livre que j'ai fait, je crois, en 84 ou 85, c'est intitulé « Légumes gourmands ». On ne pouvait pas... Bon, mais ce n'est pas pour ça que je suis végane. Moi, j'ai appris à l'école, où je ne suis pourtant pas resté si longtemps, que nous étions omnivores et que l'omnivore devait manger de tout en quantité raisonnable. Voilà. Alors, suis resté sur cette définition de l'omnivore.
Guy Savoy, est-ce qu'il existe des chefs qui ne sont pas gourmands, mais qui sont des techniciens hors pair ?
Bien sûr, mais à partir du moment où...
On peut être un très grand chef étoilé sans être forcément gourmand.
Alors ça, je ne sais pas. Bon, alors, gourmand, non, je pense que c'est impossible, mais il y a plusieurs degrés dans la gourmandise. Hein. Moi, je pense que je suis stade 4. Hein, parce que
gourmet.
Non, mais gourmet et gourmand, parce que je crois que dans la gourmandise, il y a une part d'excès. Mais alors, ça va être très antinomique, ce que je vais vous dire, d'excès mesuré, voilà.
Alors, il est temps qu'il s'avoue de parler de votre navire amiral à l'hôtel de la Monnaie, Quai Conti, qui offre une vue sur l'Académie française, sur l'île de la Cité, le Louvre, le Pont Neuf, le Pont des Arts, le Paris éternel. C'est un lieu rare et chargé d'histoire, puisque on y frappe la monnaie française depuis, je me suis renseigné, depuis 12 siècles. Hein. En tout cas, aujourd'hui, on y frappe les monnaies de collection.
D'accord. Oui.
Comment et pourquoi avez-vous investi ce lieu d'exception qui a été construit dans les années 1770.
Oui, alors j'ai répondu à un appel d'offres. Hein. Bon, ce lieu m'a été montré en disant qu'il y avait un appel d'offres et j'ai fait mon dossier avec beaucoup de rigueur et c'est ma candidature qui a été retenue.
Vous étiez nombreux à avoir
proposé un dossier. Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir.
Oui, il ne veut pas le savoir.
Et je ne veux pas connaître les noms.
Voilà. Alors, pour contrebalancer le cérémonial du lieu, qui est d'une beauté renversante, il y a partout chez vous, de l'art contemporain prêté par François Pinault.
Absolument. J'étais avant la Bourse du Commerce, le lieu parisien où François Pinault a eu la gentillesse de mettre en place quelques-unes de ses œuvres. Voilà. Donc, c'était un point extraordinaire parce que c'est vrai qu'à une époque, Jean-Michel Villemotte, qui a fait le restaurant, m'avait dit « ce serait génial si François Pinault te prêtait des œuvres ». Et je lui dis « je n'oserais jamais lui demander ».
Alors qui l'a fait pour vous ? C'est Villemotte ou c'est François Pinault qui vous l'a proposé ?
Oui, qui l'a proposé. Cet endroit, il a dit « voilà, je mettrai quelques œuvres dans votre maison voilà, ». Je le salue, je le remercie et c'est vrai qu'il participe largement à la singularité des lieux.
Cher Guy Savoy, alors je ne me lasse pas de le répéter pour la 4e année consécutive, la liste, ce classement qui a été créé par un ancien ambassadeur, Monsieur Faure, en compilant donc les avis de tous les guides de la planète, eh bien cette liste vous a désigné meilleur restaurant au monde. Alors, Très simplement, je voudrais savoir ce que l'on mange dans le meilleur restaurant du monde.
Alors, bon, je vous allais dire que le cuisinier que je suis va peut-être mettre la cuisine en dernier. Mais lorsqu'on a la chance d'avoir un lieu unique, comme vous l'avez très très bien décrit, hein, qui a la vue sur la Seine, le Louvre, enfin dans le Paris éternel, avec bon, les œuvres de François Pinault accrochées au mur, une atmosphère que je souhaite chaleureuse en permanence, avec des équipes qui adhèrent au discours.
Combien de personnes en tout ?
En tout, on est 65.
D'accord.
Donc, et là, je dirais, bon, c'est toute la mise en scène de la cuisine que je viens de vous inventorier, là. Donc, après, la cuisine, bien, la cuisine, c'est très difficile d'en parler. Je crois que la vraie explication, le vrai discours du cuisinier se trouve dans l'assiette. Alors, si je devais résumer ma cuisine en quelques mots, je dirais, bien sûr, on va revenir à la gourmandise, un nombre limité de produits qui viennent soit en contraste, soit en appui. Voilà, mais ça peut être des huîtres en nage glacées avec un concassé d'huîtres, parce que je me suis aperçu qu'en concassant les huîtres, on avait encore un goût d'huître. On doit avoir l'ingrédient qui se retrouve dans son élément, c'est-à-dire pour les huîtres, la mer. Pour des légumes, le jardin. Bon, quand on me dit que mes petits pois, on a l'impression de les manger dans le jardin. Mais c'est ça, pour moi, ça résume la cuisine instantanément.
Mais alors, j'entends bien, mais les cuisiniers de légende ont toujours eu leur plat signature. Par exemple, dans les années 70, c'était le saumon à l'oseille des frères Troisgros. Et puis, il y a eu la soupe VGE aux truffes noires de Paul Bocuse, ouais. Le fondant au chocolat de Michel Bras, copié dans le monde entier, la salade folle au foie gras de Michel Guérard. Yeah, ouais. Alors, votre plat signature, Guy Savoie, celui qu'on tente de copier partout, tout autour de la planète, c'est lequel ?
Mais c'est la soupe d'artichaut à la truffe, qui est servie avec une brioche feuilletée aux champignons. C'est le mariage en fait de mes deux apprentissages, hein, de pâtissier et de cuisinier. Mais surtout, la définition, c'est un convive qui l'a donnée, et je la trouve jolie, donc je vais vous la dire tout simplement. C'est il m'a dit ce soir-là, les artichauts, ce sont tes origines modestes. La truffe, c'est ta quête d'excellence. Et la brioche, c'est ton âme d'enfant. Et je trouve qu'avec ces trois phrases, il a parfaitement expliquer le plat, quoi.
Voilà. J'ignore s'il vous arrive de vous retrouver seul, bien après le dernier service, dans vos 280 mètres carrés de cuisine, hein, qui est Conti,
oui,
280 absolument. Mètres carrés.
Oui, oui.
Mais si soudain, une petite faim comme ça vous prend, qu'aimez-vous cuisiner de façon impromptue, sur le pouce ?
Ça va dépendre. Bon, alors si c'est dans la cuisine du restaurant, moi je pense que ça va être des légumes ou des œufs. En tout cas, oui, ça va être soit l'un, soit l'autre. Mais une chose très, comment vous dire ?
Ils ont quoi de particulier ? Les œufs cuisinés par Guy Savoie, le meilleur chef au monde.
Ça dépend.
Allez,
ça dépend
le tour de main.
Comment les fait. Bon, si c'est une omelette, oui, j'essaye de la... Vous savez, alors juste un petit truc pour les omelettes.
Allez.
Pour l'omelette, si vous gardez votre poêle sur le feu ou sur votre plaque électrique jusqu'au bout de l'omelette, votre omelette sera trop cuite. Il faut penser à l'inertie de la chaleur, c'est-à-dire la poêle, elle a emmagasiné des calories. Vous devez retirer du feu votre poêle.
À quel moment à peu près ?
Mais quand encore elle est trop coulante, trop baveuse à votre goût, vous la retirez à ce moment-là et les 30 secondes vous allez la terminer hors du feu. Vous allez avoir l'omelette parfaite, voilà.
Merci Guy Savoie. On retrouve mon invité tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
Alors cher Guy Savoie, avec malice, mais sûrement avec sincérité, vous confiez, chaque jour qui passe, je m'éloigne de la retraite. Je veux bien vous croire, car j'ai appris que lorsque vous avez signé le bail de votre restaurant, qui est Conti, il paraît que vous avez insisté pour étendre la durée du bail à 17 ans. C'est-à-dire que ce bail expirera quand vous aurez 79 ans. Mais à 79 ans, je ne peux pas imaginer une seconde que vous arrêtiez de faire la cuisine.
Ben non, mais il n'est pas du tout question.
Pas du tout question.
Pas du tout question. Si j'espère une bonne santé, j'ai envie de continuer. Je veux être le Robert Marchand de la cuisine. Vous savez, ce cycliste qui est mort à 109 ans.
Voilà.
Moi,
ou le Clint Eastwood, parce que j'ai appris qu'il était venu dîner chez vous, Clint Eastwood.
Alors, il
avait passé une soirée si fabuleuse qu'il vous a d'ailleurs envoyé Brad Pitt et Angelina Jolie ensuite.
Absolument.
Et alors, Clint Eastwood, à 91 ans, il réalise toujours des films. Le prochain, d'ailleurs, a pour titre Cry Macho. Il va sortir en octobre. Cette énergie qui repose sur la passion, il faut donc pas croire qu'elle s'émousse avec les années, c'est ça?
Au contraire, je crois qu'elle s'amplifie parce que moi, je n'ai jamais travaillé avec autant de critères positifs. C'est-à-dire, le lieu est magique. Les cuisines ont des fenêtres de chaque côté. J'ai la chance d'avoir des équipes exceptionnelles, ouais, qui sont passionnées, enthousiastes. Moi, je suis au milieu d'une forme de capitaine. Avant, je disais capitaine-entraîneur. Je viens de rajouter, grâce à un ami rugbyman qui s'appelle Daniel Herrero, je viens de rajouter entraînant. Donc, je suis capitaine, entraîneur-entraînant.
Voilà. D'équipes qui viennent vraiment du monde entier, n'est-ce pas?
Il y a
combien de nationalités?
12 ou 15 nationalités dans la maison.
Ah, oui.
Presque autant que chez les convives. Voilà. Enfin, en temps normal, pas en ce moment. Hein. En ce moment, on a... Malheureusement, on est en manque de...
Mais ils vont revenir, oui, ils vont revenir.
Et puis les Français sont là, donc c'est bien.
Je parlais à l'instant de Clint Eastwood, mais cette soirée qu'a Conti avec lui, paraît-il, fut mémorable. Il avait demandé à son chauffeur de revenir le chercher à 23h. Il paraît qu'il est parti à 1h30 du matin, c'est ça?
Et vous savez tout, oui, c'est incroyable. Il est arrivé, c'était table de 5, mais pour parler affaires, en fait. Et je l'entends dire, il arrive assez austère, c'est-à-dire que bon, je suis dans l'entrée, je l'accueille, mais je sens qu'il n'est pas fort, enfin qu'il n'est pas joyeux, quoi. Enfin, pas joyeux, qu'il doit. Et au cours du dîner, il y a un moment où ça a basculé. Il a même échangé avec une table à côté qui était aussi émerveillée que moi de le voir. Et tout ça s'est passé de manière tellement, enfin, sympathique, quoi. Voilà, tout simplement, normalement sympathique, et c'était une magnifique soirée.
Alors, puisqu'on parle d'Eastwood, l'Amérique, mais on n'a pas évoqué votre restaurant à Las Vegas situé dans le mythique César Palace. Vous y allez tous les combien à peu près?
Alors,
à Vegas
en temps normal, c'était deux fois par an. Là, ça fait un an et demi que je n'y suis pas allé et je n'arrive toujours pas à y aller. Là, je n'ai pas la possibilité, sauf, bien sûr, si j'avais un motif impérieux.
Oui.
Mais bon, je crois que c'est pas... Non, les échanges ne sont encore pas normalisés.
Tout à fait rétabli.
Mais je pense que ça peut aller très vite, là, maintenant.
Mais ils vous aiment, hein, les Américains, Guy Savoy. Parce que, par exemple, j'ai appris que lorsque Pixar a produit le dessin animé Ratatouille, ils ont demandé à venir dans vos cuisines à vous pour observer le rythme, observer les balais, la coordination dans les fourneaux. Oui. Et je voudrais savoir, alors, concrètement, ça s'est passé comment? Ils filmaient les gestes de vos équipes, ils prenaient des notes.
Les deux Brad, il y avait Brad Bird et l'autre, j'ai un petit trou de mémoire. Bon, étaient des convives fidèles du restaurant et un jour, ils me demandent s'ils peuvent, avec une petite caméra, venir saisir ce qui se passe dans une cuisine pour le rythme. Ils ont fait d'autres restaurants à Paris pour les décors et tout, nous, mais c'était pour le rythme de la cuisine.
Ouais.
Et le rythme de Ratatouille a été
La précision du geste.
A été inspiré par ce qui se passe dans nos cuisines. Et dans la version française, pour me remercier, ils m'ont fait doubler une voix.
Mais voilà, vous avez doublé le critique culinaire.
Non, oui, à la fin, à la fin du film, voilà, le maître d'hôtel est devant la table, fait le tour des convives, et moi, je demande... ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui.
Donc, oui.
Et là, le maître d'hôtel me propose du foie gras. Je dis, mais non, mais votre foie gras, je le connais. Voilà. Et pour faire ces deux phrases, je crois que j'ai fait 50 frises. Parce que c'était abri sur main.
Vous êtes plus doué devant les fourneaux.
Absolument. Non, mais c'était une belle... C'était en tout cas une très, très belle expérience. Et je trouve que ce film rend hommage justement à la gastronomie française.
Mais oui.
Et puis, vraiment, annonce d'entrée, dès les premières images, que la capitale de la gastronomie, c'est Paris.
C'est Paris.
Voilà.
Alors, quelques années plus tard, après Ratatouille, on vous a retrouvé sur les plateaux américains de Masterchef. Vous avez fait Masterchef USA. Mais
yes.
Pourquoi avez-vous attendu si longtemps alors pour apparaître chez nous dans Top Chef en mars dernier?
Problème d'agenda, tout simplement. Et là, cette année, bon, j'ai dit oui parce que donc, y avait les circonstances faisaient que l'agenda était beaucoup moins chargé et sous la pression d'un grand nombre d'amis. Mais c'était pas une attitude contre. Bien au contraire, je vous ai dit tout à l'heure que toutes ces émissions, en fait, donnent certainement l'idée à des ados de choisir nos métiers. Donc, vraiment, et c'était à chaque fois, et ça a été cette fois-ci un immense plaisir, parce que j'ai vu l'organisation, la passion des candidats, ça aussi, c'est important de montrer, quoi, de montrer cette vitalité, cet enthousiasme, et puis ce qu'on peut faire avec des produits, encore une fois, la magie.
On fait une pause très très courte, et on retrouve tout de suite mon invité cet après-midi, Guy Savoy.
Europe 1.
Des fraises, des cerises. suis un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps.
I walked in town on silver spurs, a jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine.
Des fraises, des cerises, un baiser.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Guy Savoie, pendant le confinement, vous disiez à la presse, dès que la planète ira mieux, je pense que nos amis asiatiques et américains qui sont vraiment amoureux de la France vont revenir en grand nombre et tout va reprendre comme avant. Bien évidemment, et on les attend, les touristes. Mais Paris, alors ça n'engage que moi, mais je dis ce que je constate. Paris, il faut bien le dire, en ce moment est dégradé. Paris n'est pas entretenu, Paris est plutôt insécure. Et puis avec l'interdiction de circuler en voiture en son centre, qui va prendre effet au début de l'année prochaine, ça ne va pas arranger les choses. D'ailleurs, la presse internationale a relayé le manque d'entretien de Paris. Et j'imagine que les touristes étrangers fortunés, qui doivent représenter une grande part de la clientèle des restaurants gastronomiques, n'ignorent pas que désormais, Paris en 2050 2020 n'a plus vraiment grand-chose à voir avec le Paris fantasmé des cartes postales. Sauf qu'à Conti, où se trouve votre restaurant, ça je vous l'accorde, et où c'est sublime. Mais en général, l'état de Paris, ça ne vous préoccupe pas ?
Ce qui est préoccupant, bon, ce sont les travaux un peu partout, donc je préfère penser que ces travaux vont déboucher sur du positif. Mais c'est vrai, quand je vois, pour séparer les voies de vélo, ces plots en béton et tout, avec des perspectives telles que l'opéra derrière et tout, je me dis peut-être, alors j'espère que c'est provisoire et que, bon, on fait, je sais bien dans mon métier qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, bon, j'imagine que tout ça va s'arranger. C'est vrai, quant à la propreté, lorsque j'étais à l'Étoile, je trouvais qu'on avait beaucoup plus de problèmes de propreté que j'en ai aujourd'hui dans le 6e. Bon, j'ai la chance d'habiter aussi dans le 6e. Je trouve que c'est un arrondissement qui est très bien tenu.
Pourquoi dites-vous, Guy Savoy, pourquoi dites-vous aux États-Unis j'aurais fait fortune.
C'est vrai. Ah, je devais être en colère ce jour-là.
Vous l'avez dit.
Je devais sortir d'un contrôle ou je ne sais pas. Bon, quand je vois certains confrères américains, même des Français qui ont très très bien réussi là-bas, c'est vrai qu'il y a une différence. Mais bon, moi, vivre en France, je suis prêt à admettre qu'il y a un prix pour habiter dans ce pays. Qui est le plus beau du monde. Alors, bon, comme je vous dis, je devais être en colère ce jour-là, mais pour rien au monde, je quitterai la France.
Mais la preuve, vous y êtes. Vous y êtes, mais votre fils, lui, s'est installé à Santa Monica, n'est-ce pas ?
Il est à Santa Monica.
Où il s'occupe de la restauration de Deux Palaces.
Ouais.
Vous auriez pu, plus jeune alors, à son âge, vous expatrier, ou bien ça vous aurait fendu l'âme de quitter la France dont vous êtes amoureux.
Je veux dire, je suis amoureux de mes lieux en France et de cette ville que j'aime par-dessus tout. Et puis, la France m'a permis de faire aussi ce parcours, donc Alors vrai, la vie ici nous coûte un peu plus cher qu'ailleurs, mais bon, je parle pour les entreprises.
Jusqu'à présent, je parlais essentiellement du restaurant qui est au sein de l'hôtel de la Monnaie qui est Conti, mais en fait, vous avez 4 autres restaurants parisiens. C'est important pour le client d'apercevoir le chef chaque fois qu'il vient, même si je pense aux autres restaurants comme celui où vous faites restaurant japonais par exemple.
Maître Albert, l'atelier Maître Albert qui est rue Maître Albert, donc au pied de Notre-Dame mais rive gauche, oui, qui est une rôtisserie donc dédiée.
Vous arrivez à vous démultiplier, partager, comment faites-vous ?
À chaque fois que j'ai un ou deux collaborateurs que j'associe dans ces lieux, mais moi je ne bouge pas du 11 quai de Conti. Quoi. Je suis, je vais pas vous dire en présentiel parce que je trouve ce mot horrible. On l'a trop entendu.
Vous avez raison.
Et voilà, donc je suis présent 11 quai de Conti. Et c'est là où j'opère. Et après, à l'atelier Maître Albert ou au Chiberta, près des champs à l'Étoile. Là aussi, j'ai un associé qui tient très très bien la maison. Et je n'ai pas de problème avec ça. Voilà.
Guy Savoy, est-il vrai que vous répétez à vos équipes qu'il faut en fait absolument viser cette 4e étoile qui n'existe pas? Vous leur répétez ça sans cesse.
Oui,
c'est le mantra de Guy Savoy.
Absolument, oui, c'est de dire, c'est la meilleure manière en fait de rester passionné, de rester dynamique et d'avoir cette formidable envie d'avancer. Quoi. Ben, c'est ce qui nous procure.
Fait nous sentir plus vivants.
Des sensations, absolument. Et je dis toujours, les sensations sont proportionnelles aux efforts. J'ai jamais vu dans nos métiers quelqu'un qui bosse vraiment beaucoup, ne pas s'en sortir.
Bon, eh bien, pour chavirer nos papilles, si on ne peut pas s'offrir un déjeuner ou un dîner à votre table 3 étoiles de l'hôtel de la Monnaie de Paris, on peut plonger dans le livre ultra inspirant de vos soupes d'été. Je vais faire une confidence à nos amis auditeurs. Moi, je ne sais pas cuisiner, je suis très 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 gourmande, mais j'avais des parents qui cuisinaient si bien qu'ils m'écartaient toujours des fourneaux en disant « tu vas faire une bêtise, pousse-toi ». Donc voilà, ils étaient de prodigieux cuisiniers, mais ils n'étaient pas dans la transmission. Alors je vais m'y mettre avec les livres donc signés Guy Savoy. Le numéro 2 vient de paraître, soupe d'été, froide, chaude ou glacée, salée, sucrée, qui vont vraiment faire de nous tous des chefs en herbe. Ce volume 2 paraît chez Hercher. Je vais toutes les réaliser, je vous le dis, il y a 25 recettes, donc je vais me régaler cet été. Et puis merci infiniment Guy Savoy pour cette conversation impromptue. Voilà, vous retournez donc là, Quai Conti.
Absolument.
Vous quittez le Quai Conti après le dernier service, vers quelle heure généralement ?
Bon, en ce moment, c'est le confinement à 23h, donc on termine un peu plus tôt. Mais normalement, oui, c'est jamais avant minuit. Quoi. Donc, quoi qu'il arrive, en temps normal, minuit, une heure du matin, mais encore une fois, c'est
pas... Et vous dînez après ?
C'est pas une complainte. Non, avant.
Vous dînez avant ?
Avant, parce que je me suis aperçu que si je dînais après, il y avait des effets secondaires sur ma silhouette, que j'essaye de, et j'essaye de la préserver tant bien que mal. Ouais.
Donc un grand chef dîne vers...
Non, 18h30, 19h, oui. Mais après, il y a toute la partie, je dirais, j'ose pas dire dégustation, mais il faut goûter tout au long du service. Et
vous goûtez tout au long du service ?
Oui, ben oui, mais par plaisir.
Mais quel métier magique à cet homme.
Merci infiniment.
À bientôt,
merci,
du savoir.
Merci, avec beaucoup de plaisir, merci.
Dans un instant, on retrouve Stéphane Bern et Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre. Bonjour les garçons.
Bonjour Isabelle.
Et oui, Historiquement Vôtre et nos poissards de l'histoire, c'est juste après les infos.